parler. Mais d'abord, je vous fais entendre le président de la FMSQ, Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Vincent Oliveira, qui parlait à Paul ce matin. On vous résume en à peu près 2 minutes sa proposition pour gérer autrement le réseau de la santé.
Ce qu'on veut faire, là, c'est proposer des mesures qui vont avoir un effet immédiat. OK? Puis j'en discutais hier, j'étais au CHUM, puis j'en discutais avec mon collègue Dr. Carl Weiss, qui est souvent sur vos ondes. Et puis, je lui disais, Carl, comment ça se fait qu'il y a des travailleurs de la santé actuellement qui sont chez eux, soit parce qu'ils ont eu un contact, soit parce qu'ils sont testés positifs, mais ils sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, puis tous ces gens-là sont pas ou peu contagieux. Comment se fait-il qu'ils sont chez eux, qu'ils ne viennent pas nous aider à faire des chirurgies, nous permettre de faire des consultations en médecine spécialisée, des endoscopies, des tests d'imagerie? Si on leur permettait de travailler, là, avec des conditions évidemment bien encadrées, là, on ramènerait au réseau demain matin des milliers de travailleurs de la santé. Demain matin. On fait toujours référence à la COVID-19, puis dans le fond, quand le virus est apparu, il était plus virulent. Okay, mais actuellement, le virus a changé. Puis ça, je pense que c'est un message qu'il faut qu'il passe. Il faut s'ouvrir les yeux. Okay? Il faut faire un reset. Puis il faut se dire, le virus, c'est plus le même qu'au début. Puis il faut le traiter différemment, puis il faut le gérer différemment. Ce qu'on dit, là, c'est que le risque zéro n'existe pas. Sauf que le risque, là, il est très différent. Puis je comprends la prudence que ça ne reflamme pas dans les CHSLD. Mais là, les patients dans les CHSLD sont triplement vaccinés. C'est un virus qui est moins virulent. On est ailleurs. Si on gère avec un risque zéro, ben c'est ce qui arrive. On regarde ça monter, puis là, on commence à penser à un niveau 5 de délestage. Moi, je veux pas entendre parler du niveau 5 de délestage. Je veux qu'on recommence à faire de la médecine. Fait que pour faire ça, il faut ramener des gens dans le réseau. Il va avoir un risque. Le risque zéro n'existe pas, mais le risque est très faible. Mais ce que ça va nous permettre de faire, c'est traiter des patients qui sont déjà malades. Eux autres, ces patients-là, là, il n'y a pas de risque. Le risque est à 100 parce qu'ils sont déjà malades, puis on ne les traite pas. Pour moi, si on le gère différemment, on est capable de faire une médecine qui ressemble à une médecine normale, puis arrêter de délester.
Vincent Oliveira, médecin, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Alors là, est-ce que cette idée-là va faire du chemin? Est-ce qu'elle est appuyée dans la communauté médicale? Alors là, on va aller rejoindre le docteur Martin Champagne. Il est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues. Donc, les médecins qui soignent les cancers au Québec. Docteur Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Docteur Champagne, est-ce que vous appuyez la proposition du docteur Oliveira de dire, même si tu as été testé positif, si tu as peu ou pas de symptômes, tu retournes travailler à l'hôpital. Même si tu as côtoyé quelqu'un qui a testé positif, je te ramène à l'hôpital si tu n'as pas de symptômes, bien entendu. Êtes-vous d'accord avec ça?
Il y a des jours de verglas où on a le loisir de ne pas prendre son auto pour faire un bout de chemin. Il y a des jours de verglas où on n'a pas le choix puis il faut monter dans l'auto. Là, on est dans une situation où il faut se mettre sur la route malgré le verglas. Alors, présentement, il y a deux enjeux majeurs qui font que les hôpitaux sont congestionnés dans le cadre de cette nouvelle épidémie, de nouvelle vague. D'abord, le manque de personnel. Alors, le personnel, ça s'invente pas. Puis, c'est pas tous les postes qui sont interchangeables. Une infirmière du bloc opératoire, une infirmière qui donne la chimiothérapie, une allothérapeute, une technicienne de laboratoire sont des gens hautement spécialisés et tu peux pas interchanger les gens dans leur rôle si aisément que ça. Alors, il faut effectivement rapatrier les gens pour qu'ils puissent donner des soins. D'autre part, ben là, il y a un blocage qui existe pour tous les patients qui sont en convalescence dans nos hôpitaux. Donc, les gens qui ont eu la COVID, qu'ils ont peut-être un test encore positif, mais qu'ils ont récupéré, qui ont besoin de réadaptation. Alors, ces gens-là, on se heurte à la difficulté de leur donner congé dans les hôpitaux présentement. Alors, l'autre piste de solution, donc, c'est de donner congé activement dans des centres adaptés ou dans des milieux adaptés. Présentement, les CHSLD sont timorés par rapport à l'expérience passée, qu'on comprend, mais sauf que dans la nouvelle réalité, ce sont les deux situations d'urgence qui vont nous permettre de nous en sortir, parce que sinon, on compromet les soins de santé pour nos patients.
OK, bien là, vous êtes clair. D'abord, sur la proposition, on va l'appeler Olivera, vous êtes d'accord, et vous allez même plus loin, vous dites, l'autre question là, du transfert vers les CHSLD, je comprends tous les décès qu'on a eus dans les CHSLD, particulièrement lors de la première vague, mais là, on est rendu là, il faut dans le fond gérer notre risque, mais il faut prendre ce risque-là de retourner certains patients, patientes dans les CHSLD. Pour libérer des lits.
Tout à fait. Les résidences de personnes âgées, CHSLD, en fait, toute l'infrastructure. Peut-être que dans l'immédiat, ce qui va pallier au plus urgent, ça va être de trouver des solutions temporaires, mais il faut que les gens puissent retourner dans leur milieu de vie. C'est ça le but ultime. Alors, présentement, c'est les deux seules façons, donc rapatrier du personnel et donner des congés précocement pour désengorger le système et permettre aux Québécois qui ont des infarctus, qui ont des fractures de hanche, qui ont donc le cancer, d'avoir accès aux soins de santé.
OK. Vous côtoyez évidemment vos collègues oncologues. Ce matin, dans les médias, c'est à s'arracher le cœur. Il y a le cas d'Anne-Marie Simard, 41 ans, mère d'une fillette de 11 ans, un cancer stade 4 qui a super bien répondu à la chimio. Et là, on vient de lui dire, écoute, ta chirurgie est annulée. La chirurgie qui, comme dit son chum, pourrait permettre de lui faire passer son espérance de vie de mois à des années, possiblement, sa chirurgie a été annulée. Ça, c'est Thomas Gerbet qui le rapporte. Il y a le cas également de Stéphanie Noiseux. Elle, on lui a annoncé la semaine passée, elle est mère de 4 enfants. Elle devait subir l'ablation de l'utérus parce qu'elle a un cancer avancé du col de l'utérus, chirurgie annulée. Son plus vieux qui lui dit à maman, ben oui, mais le cancer, ça tue. Nous, on va faire quoi si t'es plus là, maman? C'est Gabriel Duchesne et Ariane Lacourcière qui nous rapportent ça. Des cas comme ça, là, vous en avez, Dr Champagne. Là.
Ben, on est confronté à plein de drames. En fait, il y a des gens qui savent qu'ils ont le cancer et qui n'ont pas accès au plein plateau technique parce que il manque de ressources, par exemple, dans une salle de chimiothérapie où il y a un délai pour la chirurgie. Puis il y a tous les autres patients qui sont en amont, donc qu'on ignore, on n'a pas de diagnostic, ou pour lequel le bilan n'a pas été complété. Vous avez un test de dépistage qui suggère que vous avez un cancer. Vous avez besoin de tests complémentaires d'imagerie, des tests, donc des évaluations médicales. Tout ça peut prendre beaucoup plus de temps, On a juste le nombre de patients en attente de coloscopie au Québec, là, qui a explosé depuis donc mars 2020, depuis presque 2 ans, et on n'a jamais été capable de combler ce retard-là. Ces patients-là existent, mais certains d'entre eux, un bon nombre, ignorent complètement la gravité de leur situation. Alors, ce sont des drames incommensurables, mais c'est sûr que, pour en revenir aux deux exemples que vous citez, quand tu sais que tu as un cancer, quand tu sais que tu as une intervention X, que ce soit une chirurgie ou un traitement de chimiothérapie, qu'on te dit on n'a pas la capacité d'accueil, donc c'est un drame. Présentement, tout ce qui requiert des soins hospitalisés est un problème qui se dessine et qui va s'accentuer. On n'a pas vu la fin de cette crise-là actuellement. Là.
Oh, mon Dieu. Ça veut dire qu'on va avoir du gros, gros rattrapage. Là. Quand on va mettre fin au délestage, il va y avoir un gros, gros rattrapage à faire. Puis il y en a pour qui ça risque d'être trop tard. J'insiste sur le mot risque. Ça risque d'être trop tard.
Le cancer, donc certains cancers sont de nature beaucoup plus agressifs que d'autres. Alors, un cancer du poumon métastatique, si vous avez des métastases au foie ou aux os et que vous n'avez pas de traitement, la survie se calcule en quelques mois. Les thérapies de chimiothérapie, d'immunothérapie dans le cadre d'un cancer du poumon avec métastase permettent une espérance de vie qui se chiffre en années, quelques années de plus. Donc, ça fait une grosse différence tant sur la qualité de vie que sur donc la survie de ces patients-là. Alors, si vous attendez 1 mois de plus, 2 mois de plus, bien, vous perdez des forces. Vous allez moins bien tolérer les traitements. Si vous avez un cancer d'une maladie, donc à un stade moins avancé, puis que, par exemple, vous avez eu un test, vous êtes dans l'attente d'un test de dépistage par coloscopie, votre cancer sera peut-être donc à un niveau plus avancé. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une chimiothérapie en complément à votre chirurgie quand ça aura lieu. puis votre risque de rechute sera peut-être plus élevé. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de traitements donc plus lourds que ce que vous auriez eu si vous aviez eu un diagnostic plus précoce. Alors, j'ai déjà mentionné à votre émission, il y a déjà un petit bout de temps, que les épidémiologistes anglais avaient estimé qu'on aurait un accroissement, donc une augmentation du taux de décès par cancer, pas pour un an ou deux ans après l'épidémie de COVID, mais pendant une période qui pourrait durer jusqu'à 10 ans, ce qui va imposer un fardeau important aux patients, parce que si vous avez des traitements plus lourds, ben c'est taxant pour vous, là, donc qualité de vie, les inconforts, des souffrances qui peuvent être liées au traitement, d'une part. Puis d'autre part, ben un fardeau pour la société. Plus le traitement est lourd, plus vous demandez des ressources au niveau hospitalier, plus vous demandez des traitements qui sont chers. Donc, l'impact de ça va être important pendant des années et des années.
Dr. Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Merci, Dr. Champagne. Bon courage.
Malgré tout, il faut demeurer optimiste. On va trouver des solutions, mais il faut s'y attaquer et être inventif dans nos prises de solutions.
On compte sur vous. Merci.
Parfait. Bonne journée.
Luc.
Oui, Bernard.
Quelque chose, hein?
Oui, c'est quelque chose, mais hier, tu avais le fameux Dr. Fauci qui a dit la chose suivante. Préparons-nous parce qu'on va tous être touchés par le variant Omicron. Et c'était un peu avec des sous-entendus qui disaient arrêtez toutes vos mesures qu'on a mises en place à l'époque où le virus était différent. Le virus est différent.
Donc la proposition Olivera, tu la trouves intéressante? Est-ce que tu l'appuies?
Je l'appuie complètement, puis je pense qu'il faut commencer à regarder l'évolution de l'épidémie, de la pandémie, avec un œil vraiment neuf, parce que je pense qu'on perd notre temps à l'heure actuelle avec des mesures qui rendent les gens complètement fous et qui ne sont plus reliées à la réalité de ce virus, qui n'est plus le même, pour citer le docteur Oliva.
Non, puis Olivera, écoute, quand il dit, dans le cas de quelqu'un dont on sait qu'elle a le cancer, elle doit être opérée si on veut lui sauver la vie... C'est pas un risque. Le risque, il est là, il est à 100%. Tu sais, on dit on ramène pas certaines personnes dans le réseau de la santé parce qu'il y a un risque qu'elles arrivent avec l'Omicron puis qu'elles contaminent l'entourage, le personnel, les collègues. Il dit, bon, il y a un risque. Il y a un risque de tant de pourcent. Dans le cas de quelqu'un qui a le cancer, c'est pas un... Le risque, il est de 100%. On le sait qu'elle a le cancer. Faut l'opérer.
Voilà. Mais il disait aussi, le docteur Oliva, on peut plus fonctionner avec des principes qui reposent sur l'idée du risque zéro. Le risque zéro n'existe pas même quand il n'y a pas de pandémie. Alors, à un moment donné, il faut regarder les choses en face et puis se dire, bon, d'abord, on commence à voir des signes qu'on a atteint le pic dans le nord-est des États-Unis.
Ah, même ici. Les hospitalisations nettes diminuent encore aujourd'hui, là,
Et si ce n'était de ces non-vaccinés qui occupent autant de places dans les hôpitaux, on vivrait pas ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et je pense que, bon, l'arrivée du docteur Boileau va servir de déclencheur, mais le gouvernement va être obligé de se réaligner. Ça peut plus marcher comme ça.
Luc, on se reparle.
À tantôt.
On s'en va à la pause au retour. Je vous relance sur le sondage, là, parce qu'il y en a qui me répondent oui ou non. Là, pour ce sondage-ci, c'est pas oui ou non, c'est pour ou contre. OK? Fait que si vous m'avez écrit oui ou non, là, reprenez-vous. Êtes-vous pour ou contre un retour à l'école à partir de lundi, en présentiel? Pour ou contre, je vous donne le résultat au retour.